La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et aux minutes de notre club, cet après-midi, Jean Verne, l'arrière-petit-fils de Jules Verne, qui est aussi le parrain d'une collection du monde consacrée à l'intégrale des voyages extraordinaires. Nous accueillerons également la psychologue du pôle France de football féminin, Chloé Leprince, et le chercheur Franck Courchamp pour Une espèce à part. C'est une web-série d'Arte qui remet l'homme à sa place. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
La Lune revient sur le devant de la scène spatiale et politique et c'est à la Lune de la science.
Et oui, les Américains accélèrent leur calendrier de retour sur la Lune, quitte à réorganiser toute la NASA s'il le faut pour y arriver. On vous explique pourquoi dans un instant.
Et Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, je salue les invités de ce club. Jean Verne, la psychologue du sport, Chloé Leprince, le chercheur Franck Courchamp et puis mes camarades journalistes scientifiques Sophie Bécherel et Benoît Tonzon. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Jean Verne, on commencera avec vous tout à l'heure. Je suis très heureux de vous recevoir car avec vous, c'est un petit peu d'ADN de Jules Verne qui est entré dans ce studio. Vous êtes donc en effet l'arrière petit-fils de l'écrivain et vous êtes le parrain donc de cette collection publiée par Le Monde et qui propose l'intégrale des voyages extraordinaires dans une édition vraiment très fidèle à l'origine. Cette collection de Hetzel. Alors, est-ce que vous avez lu toute l'œuvre de votre arrière-grand-père ?
Oui, j'ai fini par la lire, oui.
C'est vrai ? ça vous a pris du temps ?
Ah oui, ça m'a pris du temps, mais surtout que j'ai commencé tard.
Mais c'est ça, voilà. Mais c'est incroyable. Ouais. Vous n'aviez pas envie de lire Jules Verne petit ?
Non, du tout. Bah, j'entendais parler toute la journée. Hein. C'était, non-stop. Donc, honnêtement, c'était. Voilà, je vivais dedans. J'avais pas besoin de le lire. Ouais. J'étais au courant sans le lire. Voilà. De tout.
Vous avez fait votre révolte, mais vous êtes évidemment venu à ces lectures plus tard. On va évoquer la figure de Jules Verne et bien sûr son talent de visionnaire dans ce domaine des sciences et des technologies qui nous intéresse tout particulièrement. Sophie Bécherel, le retour dans le club, votre invitée cette semaine et votre coup de cœur.
Pour donc une mini-série télévisée co-réalisée par Clément Morin et Franck Courchamp, chercheurs au CNRS au laboratoire écologie systématique et évolution. Ça s'appelle donc Une espèce à part. 10 épisodes de 3 minutes qui parlent de la place de l'homme dans l'univers. Donc entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'homme est-il à part ? C'est la question que vous posez, c'est ça Franck Courchamp ?
Oui, c'est la question qu'on pose, même si la place de l'homme, c'est un petit peu un prétexte pour essayer de montrer par comparaison à quel point l'univers est fantastique, la nature autour de nous est bouleversante, époustouflante. Donc c'est vraiment pour montrer du positif, pour montrer, je voulais partager la fascination, l'émerveillement que j'ai à découvrir le monde autour de nous, avec des chiffres intéressants, des fun facts, des images qui sont magnifiques, parce que ce sont des images de synthèse, faites par Clément Morin, qui est à la fois un artiste extraordinaire et un technicien très, très, très fin.
On va présenter cette web-série longuement tout à l'heure avec vous. Et puis Chloé Leprince est également derrière ce micro. Un match de foot ne se gagne pas qu'avec les pieds. C'est un très bon titre ça. Hein. C'est l'article que vous signez pour The Conversation. Alors que la Coupe du Monde féminin aura lieu le 7 juin en France, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que les psychologues sont devenus incontournables aujourd'hui dans l'environnement des sportifs hein ?
Incontournable, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que leur présence se développe et l'accompagnement de la performance au niveau mental est effectivement en train de se développer dans le sport. Mmh. Après, incontournable, ça dépend de la volonté de chaque fédération et de chaque staff.
Ouais. Ça les fait gagner d'avoir une psychologue ou pas ?
On vous dira ça en juin.
Ah ouais.
C'est une aide qui me paraît effectivement nécessaire, mais on n'est pas des magiciens.
Bon, en tout cas, c'est votre travail auprès des joueuses, en particulier de foot, et vous allez nous raconter comment les équipes peuvent faire face collectivement aux différents niveaux de stress qui existent évidemment quand on joue. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et la course à la Lune est officiellement relancée, Axel, c'est aujourd'hui à la Une de la Science.
Oui, et le top départ, en tout cas ce qui y ressemble, a été donné lundi par le vice-président des États-Unis, Mike Pence, en conférence de presse. Écoutez.
The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts, launched by American rockets from American soil.
La première femme et le prochain homme sur la Lune seront des astronautes américains lancés par des fusées américaines depuis le sol américain. Voilà, le ton était donné et le calendrier complètement revu pour la NASA qui devra faire cela d'ici 5 ans. Car il ne faudrait pas arriver après les Chinois qui, pendant ce temps-là, petit pas par petit pas, sont déterminés à aller vers la Lune. Une nouvelle course, on vous le dit, et pour faire le check-up sur la ligne de départ, nous sommes avec le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle mouche a piqué les Américains pour qu'ils revoient complètement leur plan et décide d'accélérer maintenant. Ils visent 2024.
Ouais, je crois qu'on a eu droit à une séquence un peu bizarre ces derniers temps, qui m'a moi-même étonné. Ça a commencé mi-mars avec le patron de la NASA qui était auditionné devant le Sénat et qui commençait à dire que la super fusée américaine qui doit permettre le retour vers la Lune, la SLS, qui doit lancer la capsule Orion vers la Lune, allait sans doute avoir du retard, ou en tout cas qu'on allait avoir du mal à tenir les délais, et que donc on envisageait de faire appel au privé, avec une architecture spatiale qui semblait un peu abracadabrante. Et simultanément, si j'en crois la presse américaine que j'ai lue et qui est assez bien informée là-dessus, ça n'a pas du tout plu à l'administration Trump et à Mike Pence, parce que initialement, cette SLS, cette fusée géante, devait être lancée au plus tard en juin 2020, avant l'élection présidentielle.
Ah, donc il fallait qu'elle
vole. Et là, on parlait de novembre 2021, ce qui n'allait pas du tout. Donc la Lune... c'est encore un objet géopolitique, mais là, c'est un objet même de politique intérieure. C'est, on veut lancer la grosse fusée avant l'élection présidentielle. Donc, rétropédalage. Mike Pence, qui préside le Space Council, qui est une institution qui a été réactivée il y a un ou deux ans, où il y a des industriels, des responsables des programmes spatiaux qui discutent de l'avenir, de qu'est-ce qu'on va faire, de la stratégie, etc., a tapé du poing sur la table façon Kennedy pour singer un petit peu Kennedy. On sera sur la Lune avant la fin de la décennie. Là, c'est dans les 5 ans, c'est-à-dire avant fin 2024. America Great Again, ça, bon. C'est une obsession.
Il va falloir gérer le stress aussi, voilà, on a besoin de psychologues.
Hein. Pourquoi on n'a plus aucune fusée qui est capable d'envoyer des équipages sur la Lune ?
Alors, c'est une question de masse. Il y a plein de fusées côté américain, russe, chinois, européen, qui sont capables d'envoyer des engins sur la Lune. Mais quand vous voulez envoyer des êtres humains, il faut pouvoir les ramener. En général, c'est mieux. Et donc, il faut emporter le carburant pour revenir. Donc ça, il y a une masse minimale qui est aux alentours de 100, 130 tonnes en orbite basse terrestre. Et donc, il faut un gros lanceur. Et ce gros lanceur, il avait été fabriqué dans les années 60, c'était la fusée Saturne V du programme Apollo. Et depuis, on avait renoncé parce qu'on n'en est plus sur la Lune. Donc il faut en reconstruire. Les Chinois sont en train d'en développer une qui s'appelle la Longue Marche 9. Les Américains, c'est SLS. Alors on pourrait imaginer une architecture où on prend des fusées plus petites et où on assemble tout ça en orbite terrestre, mais c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on n'a pas.
Alors ce qui est drôle, si je puis dire, dans cette histoire, c'est que les Américains font un peu la course tout seuls, parce que les Chinois, ils n'ont pas accepté de jouer le jeu, ils veulent aller sur la Lune, mais ils prennent leur temps.
Les Chinois ont annoncé qu'ils iraient sur la Lune, qu'ils enverraient des humains sur la Lune, ils y vont pas à pas, ils ont bien dit, nous ne faisons pas la course. Mais comme ils ne font pas la course, ils avancent, tranquillement ils le font. Alors que les Américains ont fait beaucoup de déclarations, ouais. Et ça avance pas très vite, il faut bien le reconnaître. J'ajoute que dans ce contexte actuel, n'oublions pas que les États-Unis, sur le plan politique et économique et commercial, sont quand même en guerre avec la Chine. L'administration Trump a déclaré une guerre économique à la Chine. Et donc, le fait que l'objectif chinois se rapproche gentiment, alors que les États-Unis resteraient ou semblent rester dans les starting blocks, ça pose un problème à la Maison-Blanche.
Et en plus de ça, Philippe Hénarejos, les résultats, les expériences les plus récentes sur la Lune sont chinoises.
Oui, la sonde Chang'e 4 qui s'est posée récemment sur la face cachée de la Lune, une première, avec un petit rover qui se balade, qui fait des premières expériences scientifiques. Bon, c'est encore des missions très technologiques. Les Chinois sont en train d'apprendre à se poser sur la Lune, à travailler sur la Lune. Ils font un peu de science, mais ça va monter en puissance.
Alors, avec qui court l'Europe, la France ? Est-ce qu'on a choisi un cheval ?
Mais non, les deux. On a entendu en début de semaine qu'on aurait des expériences scientifiques à bord de la sonde chinoise Chang'e 6 qui doit ramener des échantillons d'ici quelques années, des échantillons lunaires. C'est très bien. L'Europe collabore avec la Chine sur le plan scientifique. Mais n'oublions pas que l'Europe fait aussi le module de service, c'est-à-dire le moteur de la capsule Orion pour les deux premières missions américaines autour de la Lune.
Alors Thomas Pesquet va apprendre le chinois pour faire partie de l'équipage, c'est
ça ? Il a déjà appris le chinois depuis pas mal de temps.
Il est susceptible d'aller sur la Lune, Thomas Pesquet ?
Ah, il pourrait, il a l'âge en tout cas, si jamais... on y va dans les 5 ans.
Oui. Et une astronaute aussi, parce qu'il y aura bien une femme sur la Lune quand même, non ?
Ça se pourrait, oui. Ben, oui. Après, les Européens, ils se seront des passagers. Donc, ce serait étonnant que ce soit les premiers à reposer le pied sur la Lune, mais ils feront peut-être partie du voyage.
Philippe, vous avez lu Jules Verne, évidemment,
mais
étant
bien
petit.
Bien sûr, hein. Depuis tout petit.
Voilà. Alors,
de la Terre à la Lune.
Ouais, voilà. Ce qui est incroyable, Jean Verne, d'ailleurs, dans la Terre à la Lune, c'est que Jules Verne avait imaginé la base de lancement, hein, qui se trouvait en Floride, à Tampa, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ça s'est fait après, donc il était absolument visionnaire aussi sur la question.
Oui, enfin, c'est pas lui là qui l'a imaginé, parce qu'il a quand même, pour certains de ses romans, notamment celui-là, il a travaillé avec des ingénieurs et des polytechniciens, donc...
Qui lui ont dit quel était le meilleur endroit.
Là où il a été visionnaire, dans ce roman-là, c'est qu'il a prédit que ce serait... Enfin, il a imaginé que ce seraient les Américains qui iraient les premiers, et que ce seraient les conséquences de la guerre, dû à la course aux armements et donc au progrès scientifique des guerres, qu'on pourrait aller sur la Lune. Donc là-dessus, il a été visionnaire dans ce sens-là. Après, sur l'endroit, l'orbite choisie, le moment, l'endroit où revient aussi la capsule, parce que ça revient quasiment au même endroit, hein, 5 miles nautiques près. Donc ça, c'est en effet, il a travaillé avec des ingénieurs là-dessus.
Philippe.
Oui, en fait, dans l'obus de Jules Verne, qui est lancé par un canon, il y a 3 occupants. Rappelons que la première mission autour de la Lune avec des humains, il y avait 3 occupants, c'était Apollo 8 en décembre 68. J'ai eu la chance de discuter avec 2 d'entre eux. Ils sont partis du même endroit, en Floride, et sont revenus dans le même endroit.
Il n'avait pas un chien dans le roman ?
Si.
Ah, il y avait un chien, par contre, c'est ça.
Non, pas pour
mais là, il
n'y
en avait pas, effectivement.
C'est les Russes qui l'avaient envoyé avant.
Oui, c'est ça, il y en a qui ont payé leur tribut, justement. On cite votre dernier livre, justement, Philippe, sur la conquête de la Lune.
Oui, qui retrace la première course. Alors, ils ont marché sur la Lune aux éditions Belin. C'est encore en vente.
Voilà.
Absolument.
Et plus que jamais pour le 50e anniversaire, évidemment.
Qui approche.
Ce sera en juillet prochain. Voilà. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
À bientôt. Allez, dans un instant, les invités du club. Thank you. Past the Hour. C'était Mormor.
Regardez devant nous.
Qu'est-ce que ça peut être?
C'est pas possible.
Qui a bien pu réaliser pareil miracle? Un vaisseau sous-marin.
Ça, c'est incroyable.
Les hommes avaient rêvé à ce miracle.
Seul un grand génie a pu réaliser cela.
La tête au carré. Le club.
Voilà, dans le club cet après-midi, justement, l'arrière-petit-fils du génie Jules Verne, Jean Verne, est avec nous. Chloé Leprince, psychologue du Pôle France de football féminin, et le chercheur Franck Courchamp pour une web-série sur Arte qui remet, on va le voir, l'homme à sa place, avec également donc mes camarades journalistes scientifiques Sophie Bécherel et Benoît Tonson. Jean Verne, on va commencer avec vous, puisque vous êtes le parrain de cette collection qui paraît avec Le Monde et qui a décidé de publier l'intégralité donc de ces voyages extraordinaires, fidèles à l'édition Hetzel, hein, que tout le monde a en tête, finalement, parce que ce sont ces livres particuliers, ces couvertures cartonnées, ces dessins, ces illustrations qui ont fait rêver quand même des générations de lecteurs. Hein. C'est incroyable.
Tout à fait. Ouais. Bah, Hetzel avait un génie quand même du commerce.
C'était l'éditeur.
Hein. Ah, mais tout ouais. Même de toute façon, le Jules Verne, quelque part, est né de son éditeur.
Ouais.
Même s'il a écrit avant beaucoup et des choses un peu sans intérêt. Mais celui qui lui a donné vraiment le cadre de ce qui va faire Jules Verne tel qu'on le connaît, c'est son éditeur, qui ouais. avait vraiment une idée précise de ce qu'il voulait, et il avait trouvé...
Ah, il y avait un cahier des charges, quasiment. Hein.
Il y avait un cahier des charges, ouais. tout à fait, au départ, et après, petit à petit, Jules Verne s'est pris au jeu et a peut-être été au-delà de ce qu'attendait Hetzel, puisqu'il y a eu de nombreux conflits ouais. entre eux, mais en tous les cas, c'est lui qui lui a donné le déclic... Et c'était un éditeur qui avait des tas d'idées sur les produits dérivés, sur les traductions à l'étranger, l'illustration. Ouais. En
incroyable,
effet,
c'est un bon commercial. Finalement.
Un excellentissime ouais. commercial.
Est-ce qu'il avait bien négocié ses droits d'auteur, Jules Verne?
Très mal.
Parce qu'il en a vendu de son vivant énormément.
Il en a vendu, mais il a gagné quasiment... D'abord, il n'avait pas de sur les éditions étrangères, puisqu'il a été traduit en 100 langues de son vivant. Et c'était une idée d'Hetzel, ouais. la traduction étrangère simultanée quasiment un an après.
Incroyable.
Et Hetzel lui avait dit, oh non, mais c'est tellement risqué que... bon. Pas de droit d'auteur là-dessus, parce que c'est moi qui prends tous les risques. Ça va rien rapporter.
L'escroc.
Non, je pense que voilà. Alors, Jules Verne, il a gagné de l'argent tardivement sur les adaptations au théâtre de ses œuvres. Enfin, quand je dis au théâtre, c'était au Châtelet, c'était les grands spectacles, grands shows qui ont été adaptés. Tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff, surtout, les enfants du Capitaine Grant. Enfin, surtout ces deux-là qui ont tourné dans le monde entier, même aux États-Unis. Mmh. Avec Barnum, etc. Enfin, c'était un gros succès. Et là-dessus, il a touché des droits extrêmes. Et c'est là qu'il a pu, dirons-nous, gagner bien sa vie. Mais sur les livres, non. Ouais. Hetzel, même sur les produits dérivés, il n'avait rien.
Ouais. Alors justement, là, Le Monde a décidé de sortir cette collection. Le premier volume est sorti le 13 mars, Voyage au centre de la Terre. Et puis les suivants donc paraissent toutes les semaines en kiosque. Hein. On a 20 milieux sous les mers et Le Tour du Monde en 80 jours, là, qui est sorti cette semaine. Et puis la suite des volumes, ça a commencé pendant toute la... Il y a combien de numéros exactement? Alors, combien de tomes?
Je ne sais pas. Il y a 62 oui, romans Voyage hein. extraordinaire ouais. dans cette collection-là. Après, il y a eu d'autres romans de Jules Verne, mais dans la collection telle que Hetzel l'avait conçue, il y en a 62 et 62 seront publiés. Ce qui fait, je crois, d'après ce que j'ai compté, vaguement une cinquantaine de volumes.
Ouais, mais votre arrière-grand-père écrivait seul ou il avait des nègres?
Non, pas comme Dumas, non. Ouais. Non, il écrivait ça, mais il passait sa vie à ça. Hein, donc
incroyable.
C'était un homme extrêmement triste. Enfin, c'était pas une vie rigolote, hein, ouais. du tout. Alors, il y a sa femme l'a beaucoup aidé, Honorine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Donc, il écrivait au crayon, d'abord, et corrigeait. Il fallait repasser à l'encre, envoyer à l'éditeur, et qui renvoyait avec les corrections, il fallait réécrire. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai qu'Honorine, son épouse, a quand même beaucoup contribué.
Ouais.
À faire du secrétariat, si on peut dire. Mais c'était une vie de moine.
Ouais. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs quand on visite sa maison à Amiens, hein, parce qu'on voit son bureau, le bureau dans lequel il a écrit la plupart simple. Justement de ses grands romans. Et c'est quelqu'un qui voyageait très peu, hein. Il ne mangeait pas beaucoup, alors que ses voyages ne sont que des voyages.
Les Verniens, parce que les gens n'arrivent pas à concevoir que Jules Verne n'a pas voyagé. Voilà, et qu'il a imaginé tout. Bah ouais, non, il a très peu voyagé. Il a fait deux fois le tour de la Méditerranée. Il était une fois à New York et en Écosse, en Irlande. Enfin, pour moi, c'est pas voyager.
Donc c'est dans sa tête qu'il voyageait.
Voilà, au 19e siècle,
tout
où les gens pouvaient voyager facilement. Oui, totalement. Mais à un point rare, puisque les autochtones de certains pays sont persuadés que Jules Verne, dont le nom est traduit dans la langue, c'est un des seuls écrivains dont le nom est traduit dans la langue du pays, est persuadé que Jules Verne est de leur pays parce qu'il décrit tellement bien que pour eux, il n'y a qu'un natif qui ouais. peut comprendre aussi bien les populations. Et en fait, il faisait tout ça à partir de notes, de récits de voyage. De voilà.
Ouais, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup pour se Sophie nourrir. Bécherel. S'il ne
bah, oui,
pas,
oui,
s'il
tous les après-midi.
Toute la matière,
bah, il écrivait le matin. Mmh. Voilà, il se levait à 5h, il écrivait le matin. L'après-midi, il allait se documenter.
Ouais.
Que ça. Il avait des milliers de notes qu'il a totalement détruites à sa mort.
Ah
avant
bon
sa mort.
Pourquoi?
Alors, on ne sait pas. On ne sait pas.
Il voulait que le mythe reste.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il était comme moi. Si j'ai hérité de lui, c'est ça. C'est que moi, je jette tout. Je veux dire, je garde rien. Ça ne sert à rien, de toute façon.
D'accord. Donc, chez vous, il n'y a rien. Il y a juste un lit, une table.
Non, il y a trop de choses. J'en élimine tout le temps, mais il en reste toujours.
Est-ce qu'il y a les livres de votre arrière-grand-père?
Non. Non, parce que ma grand-mère, déjà, donc sa belle-fille, en avait tellement ras-le-bol que, à la guerre de 40, où la maison a été réquisitionnée par la Gestapo à Toulon, elle a mis tous les livres sur le trottoir, elle a dit aux Toulonnais, et moi j'ai connu Toulonnais qui s'en souvenaient, petit garçon, elle a dit, servez-vous, toutes les collections Hetzel.
Les originales, hein.
Eh oui,
ouais,
oui,
c'est ça. Ouais.
Mmh. C'était voilà, ça sert à rien tous ces livres de toute façon.
Sophie,
vous avez dit au début de l'émission que vous n'avez pas lu de bonheur les non. livres de votre arrière-grand-père parce qu'on en parlait tellement à la maison. C'est-à-dire, c'était.
Mon père l'avait connu.
Oui. Enfin, il y
avait combien d'années alors votre père a connu?
Comment en parlait-on et pourquoi c'était aussi envahissant et même pesant? Vous semblez dire que c'était un peu.
Oui, pesant, je sais pas, mais enfin, mon père est né en 1892 et il était le dernier des trois petits-fils de Jules Verne et le préféré. Et donc, il allait beaucoup avec son grand-père au cirque, à Amiens. Enfin, Jules Verne et Honorine le gardaient beaucoup. Voilà. Et les deux autres, moins. C'est comme ça. Voilà. Et il aimait beaucoup mon père. Et donc, mon père a un attachement jusqu'à l'âge de 13 ans, on s'en souvient quand même. Voilà. Et puis, il a fait sa carrière, il s'est marié, il a été veuf. Voilà. Et puis, quand il est allé à la retraite, il s'est remarié avec ma mère. Et là, Jules Verne revenait un petit peu à la mode et puis est rentré à l'université, a été étudié par des chercheurs. Et du coup, il a écrit une biographie à ce moment-là. Il a consacré sa retraite à écrire une biographie. Hachette lui avait commandé aussi la suite de Michel Strogoff pour un film. Enfin, il a eu des conférences et il s'est plongé là-dedans. Et moi, je suis né au moment où il décrivait sa biographie, des articles, et c'était tous les voyages se faisaient autour de ça. Et moi, je suis né là-dedans, ce qui n'a pas été le cas de mon demi-frère et ma demi-sœur. Puisque à l'époque, dans les années 1914, 15, 20 et tout ça, Jules Verne était un peu moins à la mode, et puis mon grand-père était là, Michel, enfin le fils de Jules Verne, et donc c'est lui qui était le représentant de Jules Verne, ouais. Pas mon père.
Il avait un bateau qui portait son nom, je crois d'ailleurs, hein. Je crois que Jules Verne avait un bateau qui s'appelait Michel, non?
Il en a eu trois Saint-Michel.
Oui, c'est ça. Hein.
Mais de toute façon, il y a beaucoup de Michel dans autour de lui. Parce que dans
les romans, d'ailleurs. Hein.
Et dans les romans, parce que c'est le fils avec qui ça a été très, très difficile. Et en même temps, c'était le seul moyen de l'aimer, c'était de parler de lui tout le temps. Mais quand il se voyait, ça a été très, très compliqué.
Mais c'est quoi, finalement, faire partie de la famille Jules Verne? C'est avoir une grande maison de famille où il y a des objets, des greniers remplis de mal extraordinaires ou pas du tout? Ça ressemble pas du tout à ça.
Ah non, parce que même Jules Verne, à la fin, il vivait dans une petite baraque à Amiens. C'était pas la maison qui est actuellement le musée. Hein. Mmh. C'était une autre maison tout à fait simple. À la fin de sa vie, il s'est dépouillé de tout. Et c'est familialement, on est comme ça, quoi.
Ouais. On a la jeune génération également avec nous, Chloé Leprince et Benoît Tonson, qui sont les plus jeunes autour de ce micro. Chloé, vous avez lu Jules Verne ou pas? C'est un auteur qui vous intéresse?
On en parlait tout à l'heure, mais moi je fais partie de la génération pour qui à l'école on nous a
obligés.
Mais contrairement à ce que vous disiez, j'en garde un très bon souvenir. Ça ne m'a pas été imposé.
Ouais. Et Benoît?
Eh ben moi aussi, je suis la même génération, mais alors moi, je me rappelle d'un traumatisme. Alors, pour en reparler avec notre psychologue, c'est avec Michel Strogoff et une scène où il se fait aveugler. Et moi, j'écoutais ça dans des livres cassettes à l'époque. Donc, j'étais un peu flemmard, je voulais pas lire. Donc, j'avais les livres cassettes et ça m'avait effrayé cette description. Et là, je viens de la relire en venant pour voir si c'était tout aussi traumatisant.
Et alors?
Eh ben, oui.
Mais je vous trouve un peu palo, hein, c'est pour ça, certainement. On va écouter l'extrait d'un texte, alors d'un roman qu'on connaît beaucoup moins, c'est Paris au XXe siècle. Hein. Il y a une histoire aussi autour de votre découverte, Jean Verne, de ce roman, racontez-nous
ça. Ce qui m'a réconcilié.
Oui.
Et alors, je vais faire rapide. Enfin, c'est un roman, moi je ne savais pas qu'il existait du tout, et c'est un roman qui a été écrit juste après son premier voyage extraordinaire, et que Hetzel a refusé parce qu'il estimait que c'était totalement invraisemblable de considérer que Paris serait comme ça 100 ans après, au XXe siècle. Et ce roman est resté perdu à partir de 1913. Et quand j'ai déménagé la maison que mon père avait fait construire à Toulon, il restait dans le garage un coffre-fort que moi j'ai toujours connu, un gros coffre-fort en bronze, et qui a toujours été fermé. fermé. Mon père a jamais voulu le faire forcer. Moi, je pensais.
Oh là là.
Moi, je rêvais d'îlot au trésor et tout ça. Enfin bon, je rêvais de train électrique à l'intérieur. Moi, c'était mon obsession à l'époque. Mais et du coup, quand le déménageur et mon père est mort, enfin voilà, la maison a été vendue et il restait, tout était déménagé sauf ce coffre-fort parce que les déménageurs pouvaient pas le soulever. Il faisait 900 kilos.
Ouh.
Et donc, ils nous ont dit, bon, on va le laisser. Ça sert à rien. Il est fermé. Je sais pas, j'ai dit à ma mère, non, quand même, on peut pas ne pas partir en laissant ce coffre fermé. Je veux absolument savoir ce qu'il y a. Alors elle me dit, mais il y a rien, ton père a toujours dit qu'il y avait rien. Je dis, je sais, mais je veux quand même l'ouvrir. Donc on a fait venir
le fabricant
fiché, non, c'était un coffre fiché, donc il est fiché à Marseille. Donc ils sont venus, ils ont mis une dynamite. Alors en haut du coffre, au lieu d'en bas, et le type a dit, vous savez, si je mets la dynamite, ce qu'il y a à côté de la dynamite va brûler. On lui a dit, mais c'est pas grave, il y a rien. Alors il a dit, ben, je la mets en haut. Bon, et il a fait sauter, donc tout le haut du coffre a brûlé, il n'y avait rien. Et il y avait trois compartiments, et dans celui du bas, totalement en bas, il y avait des papiers qu'on a emportés, ma mère a emporté. Et puis, 2, 3, 4 ans après, j'ai pensé à ces papiers, et il y avait ce fameux cahier où il y avait marqué Paris au XXe siècle, mais c'est tout. Et je pensais que c'était un roman de mon grand-père, Michel, parce que c'était le coffre-fort de mon grand-père. Et puis, en parlant à des Verniens, je leur ai dit, vous savez, est-ce qu'il n'y a pas un texte de Michel, Paris au XXe siècle, ça ne vous dit rien? Et tout le monde m'a dit, mais si, quand même, toi, l'arrière-petit-fils, quelle honte, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est le roman disparu de Jules Verne, dont on connaît la trame, puisqu'il a été résumé à l'époque, il a été lu par des gens, mais que voilà, qui a disparu, ben, je dis, ben voilà, ben, je l'ai retrouvé. Alors, et donc, il est dans le tas original, puisque Jules Verne ne l'a jamais retouché.
Paris visionnaire, effectivement, ah oui. Paris au XXe siècle.
Et ça se déroule l'année où moi, je suis né. C'est ça qui est drôle. Ce roman.
1962.
Alors 61, 62, moi je suis en 62. Il a été écrit pour son fils, où il imagine son fils qui est né en 1861, 100 ans après, et moi 100 ans après je naissais, et c'est moi qui le retrouve. Ça, alors que mon père a passé sa vie à le chercher.
Ça,
et il l'avait avec lui.
Extrait d'Histoire possible et impossible, une lecture de Paris au XXe siècle.
Michel se glissa dans une foule assez considérable que vomissaient les théâtres. Il vit toute cette cohue élégante et dorée des riches qui bravaient le froid dans ses cachemires et ses fourrures. Il s'échappa rue Lafayette. À mesure qu'il avançait, le silence et l'abandon renaissaient autour de lui. Cependant, il voyait encore comme une immense lumière. Alors, il entendit au loin un formidable bruit qui ne pouvait se comparer à rien. Il arriva au milieu d'un assourdissement épouvantable à une immense salle dans laquelle 10 000 personnes pouvaient tenir à l'aise et sur le fronton, on lisait en lettres de flamme « Concert électrique ». Concert électrique ? Quels instruments ! 200 pianos mis en communication les uns avec les autres au moyen d'un courant électrique jouaient ensemble sous la main d'un seul artiste. Oh, fuyons ! Fuyons ! S'écria le malheureux. Hors de Paris ! Hors de Paris ! Et il arriva au bassin de la ville.
Donc il a imaginé les technos et les DJ quasiment, non ?
Ah, dans ce roman, il y a plein de choses.
C'est incroyable.
Il y a l'argent numérique, la langue anglaise comme langue du commerce. Et il y a
les ordinateurs, plein de choses. On peut y trouver.
La Tour Eiffel,
Internet,
voilà,
quasiment.
Au bon endroit, d'ailleurs. Il y a un phare dans son roman, l'électricité, plein de choses.
Voilà, alors c'est cette collection du monde qui est sortie donc, il y a maintenant 3 semaines. Cette semaine, mercredi, est sorti Le Tour du Monde en 80 jours. C'est le volume 3 et puis il va y en avoir beaucoup chaque semaine. Et Benoît Tonson, Michel Strogoff, ce sera le 7e volume, le 24 avril, si
très
vous
bien.
Souhaitez acheter l'édition quasiment originale, en tout cas très fidèle à ce qu'elle
très
était.
Fidèle, c'est très bien fait.
À l'origine. Merci beaucoup Jean Verne, vous restez avec nous, il y a plein d'autres sujets scientifiques qui nous attendent dans le club dans un instant.
Étrange, c'est ahurissant, enfin, comme tu changes du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance est pire présent que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, Parler ne sert à rien, même un ange n'y comprendrait foutre rien.
Extrait de son tout nouvel album, Stéphane Escher.
La tête au carré, le club, sur France Inter. L'homme, cœur de l'univers, centre du monde, joyau de l'évolution. Perdu au fin fond d'un univers infini, parmi des centaines de milliards de galaxies, chacune composée de centaines de milliards d'étoiles. L'homme, une poignée de secondes dans la journée d'existence de sa petite planète, qu'il partage avec des dizaines de millions d'autres espèces vivantes, toutes interconnectées et indispensables à sa survie. L'homme, convaincu d'être le sommet de la création, ne serait-il pas insignifiant ?
Voilà, et ça c'est la bande-annonce d'une web-série qui est votre coup de cœur de la semaine, Sophie Becherel.
Oui, une espèce à part, et vous avez bien compris dans cet extrait qu'on embrasse beaucoup de choses, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et en même temps toute l'histoire de l'univers depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui en seulement 10 épisodes de 3 minutes, ça oblige à comprimer, compresser le temps. D'où vous est venue cette idée, Franck Courchamp ?
En fait, j'avais envie de faire partager... des fois des coups de cœur que j'avais quand je voyais un fait vraiment intéressant, quelque chose qui me touchait ou qui me bouleversait, où je me disais mais il faut que les gens ils sachent ça. Et pour faire passer ces messages, j'avais besoin d'images qui étaient fortes aussi. Et c'est pour ça que la rencontre avec Clément Morin a été vraiment assez magique, parce qu'on a pu mettre des textes forts sur des images fortes et donc faire passer des messages d'information scientifique, mais vraiment avec de l'émotion. Donc à la fois la science et l'art.
Mais donnez-nous un exemple d'information importante que vous aviez envie de partager.
Par exemple, là, dans la bande-annonce, on parle du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, des centaines de milliards, ce qui est vraiment difficile à appréhender. Et il y a des centaines de milliards de galaxies, avec dedans à chaque fois des centaines de milliards d'étoiles. Et donc on a essayé dans chaque épisode de trouver des métaphores pour essayer de faire comprendre un petit peu. Par exemple, il y a autant d'étoiles dans l'univers qu'il y a de gouttes d'eau dans les océans de notre planète, ou qu'il y a de grains de sable sur tous les plages et les déserts.
Alors donc vous êtes associé à Clément Morin, comment vous avez trouvé ce garçon? Et parce qu'en fait ce sont des petits films, d'ailleurs est-ce que ce sont des vraies images, est-ce qu'il y a de l'animation?
Alors, et c'est diffusé sur Arte, enfin sur le site web d'Arte,
voilà, gratuitement, librement. ce sont que des images de synthèse, 100%. Il n'y a pas une seule image qui a été filmée.
Ça, c'est bluffant parce qu'on a l'impression qu'il y a un mélange des deux.
Et c'est pour ça que je disais que Clément est vraiment à la fois un artiste et un technicien accompli.
Alors comment vous l'avez trouvé, ce monsieur ?
En fait, je travaillais pendant un an à Los Angeles, la ville d'Hollywood, et j'avais pensé donc à ce projet depuis assez longtemps, et je m'étais dit, je vais en faire un film puisque je suis à Hollywood plutôt qu'un livre.
Carrément.
Voilà. Ouais, et donc j'ai été voir l'école d'animation de Los Angeles en pensant naïvement que ça devait être parmi les meilleurs. Mm-hmm. Et puis ils m'ont présenté une quarantaine de candidats, et même en prenant les meilleurs d'entre eux, je trouvais pas la qualité de ce que je voulais. Et donc pour essayer de leur montrer, parce que j'arrivais pas à leur décrire, j'ai tapé sur Google meilleur clip d'animation existant au monde dans notre galaxie.
Sur les Français, c'est connu. Hein,
et
c'est...
je suis tombé sur un clip de Clément Morin, et alors je leur ai dit, voilà, c'est ça que je veux. Et alors ils m'ont dit, mais on peut absolument pas faire un truc aussi génial que ça. Et alors je savais pas quoi faire, du coup, bah, je lui ai envoyé un petit mail en me disant, on sait jamais. Et puis après, j'ai oublié parce que je me suis dit, jamais il me répondra, mais j'ai pas oublié longtemps parce que 20 minutes après, il m'a répondu et il m'a dit, je suis partant, super projet, ça marche. Alors j'étais un peu déçu parce que j'étais à Los Angeles et il était à Paris. Moi, je voulais travailler avec des Américains, mais heureusement, je suis revenu à Paris et du coup, on a pu travailler. C'est un travail qui a duré 4 ans.
Oui, parce que c'est, on le voit, il y a une masse de travail forcément très très importante vu la qualité des images sur grand écran. Voilà, si vous avez une grande télévision, c'est tout à fait exceptionnel.
Faut pas le regarder sur un iPhone.
C'est vraiment sublime. Alors donc, le titre est tout à fait trompeur, une espèce à part, puisque chaque épisode se termine par cette évocation de l'insignifiance de l'humanité. Pour quelle raison vous jouez sur les contraires là ? Vous auriez pu mettre une espèce à part, point d'interrogation, mais même pas.
Oui. En fait, c'était un petit peu provocateur. Dans chaque épisode, on a un angle d'approche avec une échelle. On part de l'univers, on arrive sur la planète, l'histoire de la planète, donc la place de l'homme dans l'histoire de la planète, puis la biodiversité, le nombre d'espèces qu'il y a autour de l'homme. Et puis on va descendre comme ça dans chaque épisode jusqu'à la génétique de l'homme.
Grand chose de supérieur à celle d'autres animaux, par exemple.
Alors, par exemple, on a un épisode sur l'intelligence animale et sur les inventions animales.
Vous avez parlé des fourmis ou pas ? Parce que vous en êtes quand même le spécialiste.
Alors, on a évoqué les fourmis. J'ai fait quelques petits clins d'œil, effectivement. Oui. Par exemple, l'intelligence collective des fourmis. Mais c'est vrai que chaque épisode est résumé en 300 mots, en 3 minutes, et donc résumé toute la biodiversité, par exemple, en 300 mots, c'était quelque chose de vraiment très très difficile. Et c'est pour ça que il fallait que le texte soit au millimètre et que les images soient fortes derrière.
Ça se termine pas forcément sur une note très optimiste. Quel regard vous vous portez aujourd'hui, parce que vous êtes un spécialiste quand même de l'écologie, de l'évolution, sur la 6e extinction que l'on vit aujourd'hui et ce pouvoir de l'homme qui est bien mis en avant dans cette série ?
Alors, moi, j'essaie d'être plutôt optimiste en général, d'être plutôt positif. Mais c'est vrai que travaillant sur la biodiversité, le climat, etc., c'est pas facile d'avoir des messages positifs tous les jours. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les réactions des gens à ce film, qui sont extrêmement positives et extrêmement positive, on va dire. C'est quelque chose dont j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir autant d'enthousiasme, autant d'émotion, de retour, parce que les scientifiques entre eux, ils sont plutôt critiques et au mieux ils disent oui c'était intéressant. Alors que là, c'est vraiment un débordement de superlatifs et c'est vraiment
faire de la vulgarisation scientifique. Vous l'avez toujours fait, j'ai envie de dire en parallèle de votre, depuis longtemps en tout cas en parallèle de votre carrière de chercheur. Là, Mathieu tient un livre sur une BD sur les fourmis. Qu'est-ce que ça vous apporte cette aller-retour entre la science et la culture ? Parce que là, c'est un exemple typique de ce qu'un scientifique et un artiste qui collaborent nous donnent, un produit magique.
En fait, je pense que c'est vraiment super important pour un scientifique de partager ses découvertes, mais aussi de partager son enthousiasme, non seulement pour la science, mais aussi pour la connaissance en général. Et c'est un petit peu le message dans les deux cas.
Il faut transmettre, quoi.
Transmettre, parce que tout simplement, on est payé par la société pour chercher. On est arrivé à une étape dans notre civilisation où cet instinct naturel de l'homme de se poser des questions et d'essayer de trouver des réponses, il peut être pris en charge par la société pour qu'un certain nombre de personnes le fassent à temps plein pour les autres. Et donc, le travail, il est en deux parties. Il faut chercher, puis après, il faut expliquer ce qu'on a trouvé.
Alors, la websérie, c'est sur Arte, mais sur le site d'Arte, hein, c'est ça ?
On peut l'avoir donc, on peut l'avoir aussi sur Facebook, Instagram, YouTube.
Voilà. Et tout est gratuit. Et puis, vous avez également, aux éditions Équateur Science, donc cette bande dessinée, La guerre des fourmis, avec Huguetti, hein, qui est le dessinateur, préfacé par Bernard Werber, évidemment, un peu connaisseur des fourmis. Et donc, ça, c'est sorti également très récemment.
Ça sort le 10 avril.
Ça sort le 10 avril, voilà, ça vient de paraître. Ça va paraître. Jean Verne, est-ce que votre arrière-grand-père écrivait sur l'écologie, l'environnement?
Alors oui, dans plusieurs de ses romans, et notamment un, Le Pays des Fourrures, sur lequel il dénonce justement le massacre des animaux pour l'industrie des fourrures, notamment.
Ah oui, déjà, oui, à ce
moment-là. Et les menaces sur la biodiversité dans ce roman-là, particulièrement, mais dans d'autres, mm-hmm. Saint-Simon de la Bégame. Il y a pas mal de romans dans lesquels il insiste là-dessus, mais c'est vrai que dans Le Pays des Fourrures, c'est particulièrement où les Saint-Simon de la Bégame, véritablement inscrits comme un vrai danger pour...
Et qui sont des livres moins connus, hein, en tout cas, on les connaît
qui
moins.
Qui sont moins connus que les Mais dans 20 000 sous les mers, il en parle aussi beaucoup, au niveau des océans, par contre.
Sophie ?
Pourquoi c'est mon coup de cœur ? Parce que quand même l'univers, l'univers, la biologie, tout ce qui nous entoure, c'est d'une complexité phénoménale. Et Francorchamps, c'est un peu votre spécialité, en fait, faire des systèmes très complexes qui nous entourent, une espèce d'océan limpide. Et objectivement, vous imaginez des textes de 300 mots pour nous rappeler la naissance de l'univers jusqu'à ce qu'il y a dans votre peau.
Eh bien, il faut aller sur Arte. Alors sur le site.
Sur Arte. Je dis chapeau.
Arte.fr. Ça vous donne envie, Jean Verne, d'aller voir ça ? Eh bien, connectez-vous et vous verrez
dès demain
toute cette histoire formidable. Allez, dans un instant, on parle de psychologie des joueuses de football, en particulier avec notre invitée psychologue Chloé Le Prince.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît,
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à me dire les étoiles ? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je lui dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment ?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît,
Que de pression dans les bars.
Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît,
Légende, c'est manique.
Chacun fait ce qui lui plaît, chagrin d'amour.
Au club. Sur France Inter.
Allez, dernier sujet de notre club, on va parler psychologie, stress et sport avec les footballeuses en particulier. Benoît Tonson, vous êtes avec nous, journaliste sciences et technologies pour The Conversation et chef de rubrique de The Conversation Junior qui paraît. Présentez-nous Chloé Le Prince.
Alors Chloé Le Prince, c'est une psychologue du sport qui travaille à l'INSEP et moi je l'ai contactée parce que j'avais besoin d'un soutien psychologique le 7 mars suite à la défaite et l'élimination cruelle du PSG face à Manchester United.
Ah là là.
Et on entendait partout sur les plateaux que ça s'était joué dans la tête, donc j'ai voulu demander à une spécialiste de la psychologie du sport ce qu'elle en pensait et elle m'a répondu que elle n'en savait rien puisque elle n'était pas dans le groupe.
J'ai refusé de répondre. Effectivement.
Mais vous avez quand même écrit un article pour The Conversation qui paraît donc cette semaine, qui s'appelle « Un match de foot ne se gagne pas qu'avec les pieds ».
C'est ça.
Donc c'est déjà quand même un début de réponse à la question de Benoît Tonson.
Mais j'ai bien insisté, et c'est ce qu'on voulait aussi faire ressortir dans l'article, que le stress, et notamment le stress au niveau collectif, c'est un mécanisme très complexe. Mmh. Et que quand on ne fait pas partie de l'environnement, comme on ne fait pas partie du staff du PSG, c'était compliqué de vouloir formuler des hypothèses.
Alors vous êtes psychologue du sport, effectivement, c'est doctorante à l'INSEP. Hein, et donc en ce moment, vous êtes dans votre thèse, c'est ça? Vous travaillez.
Exactement.
C'est quoi le sujet exact alors?
Le sujet, c'est de chercher à comprendre les mécanismes interpersonnels dans la gestion du stress pour optimiser la performance en sport collectif et actuellement en football.
Et vous travaillez donc avec des sportives. Quelle est votre activité? Alors racontez-nous un peu ce que vous faites, parce que c'est intéressant ça.
Du coup, l'INSEP héberge à la fois mon laboratoire de recherche, mais également le pôle dans lequel s'entraînent les filles. Donc c'est un parfait moyen d'allier justement la recherche et ses applications au terrain. Donc j'ai une partie de mon temps qui est réservée justement à mes travaux de recherche sur la notion de stress collectif, et une autre partie de mon temps qui est réservée à l'accompagnement psychologique des jeunes filles qui s'entraînent au pôle.
Avec le pôle France de football féminin. Alors c'est quoi ce pôle exactement qu'on ne connaît pas?
Le pôle, il regroupe les meilleures joueuses en France entre 15 et 18 ans. D'accord. Donc elles entrent quand elles ont une quinzaine d'années et on assure leur formation pendant 3 ans ainsi que leur scolarisation. Elles font leur lycée avec nous généralement et pendant ces 3 ans-là, on cherche effectivement à développer leurs compétences de football et à les faire intégrer des clubs de haut niveau.
Bon alors Benoît, vous êtes toujours aussi stressé là suite à cet échec du Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas eu finalement d'éléments de réponse?
Ça va mieux quand même, j'ai eu quelques pistes et puis le temps aide beaucoup la gestion du traumatisme.
Mais qu'est-ce qui s'est passé justement pour l'équipe du PSG? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de facteurs stressants pour eux qui fait
Je vais également refuser de répondre. Ouais. Vous pouvez me reposer la question. Non, je plaisante. Je vais m'y atteler, mais. Encore une fois, le stress, il dépend beaucoup de l'environnement. Par contre, ce qu'on peut noter sur ce match-là, mais comme on peut noter sur d'autres matchs, c'est que en sport collectif, les stresseurs qui sont vécus par les athlètes ont souvent tendance à être contagieux. À subir, et contagieux pour l'ensemble, enfin pour plusieurs joueurs ou l'ensemble de l'équipe. Et effectivement, on parlait dans l'article, les décisions arbitrales, les erreurs individuelles, le scénario du match. Effectivement, ça concrètement, c'est des stresseurs qui ont pu toucher l'ensemble des joueurs. Et quand les stresseurs touchent l'ensemble des joueurs, il faut que les joueurs puissent réagir justement de manière commune. Et ça, c'est des choses qui sont assez peu étudiées dans la littérature pour l'instant, c'est-à-dire que on sait comment chacun réagit à un stresseur, mais on a assez peu étudié comment l'équipe en tant que telle fait face.
Ça ressemble à l'intelligence collective des fourmis, Franck Courchamp, finalement, non?
Oui, tout à fait.
La gestion du groupe.
Exactement. Et je me demandais si... on sait que pour la compétition de haut niveau, pour quasiment tous les sports, on dit qu'il y a une grosse partie qui est dans la tête. Je me demandais si l'évolution d'un sport d'équipe comme ça, ça pourrait être à terme... d'intégrer dans l'équipe quelqu'un qui peut-être serait un petit peu en deçà au niveau sportif, mais qui apporterait énormément à tout le reste de l'équipe au niveau psychologique.
Mais les meilleures équipes sont pas constituées des meilleurs individus. Je pense que la plupart des entraîneurs sont capables de tenir ce discours et de faire ses choix. C'est-à-dire qu'il faut avoir des individus qui travaillent ensemble, qui savent travailler ensemble, qui savent faire face ensemble. Après, forcément, il y a un certain niveau qui est requis, mais... C'est pas le meilleur individu, la somme des meilleurs individus fera pas la meilleure équipe, ça on le sait.
Sophie.
Comment mesurez-vous le stress? Vous êtes psychologue, on imagine que biologiquement on pourrait faire des prélèvements, mais comment faites-vous vous?
Pour le coup, on n'a pas de mesures physio, notamment dans le cadre de mon doctorat. Par contre, en fait, le stress, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une perception de la personne qui perçoit les exigences de la situation comme trop fortes et ses ressources trop faibles pour pouvoir y faire face. Donc il y a vraiment un aspect très perceptif et c'est l'athlète en tant que tel qui a les réponses de ce qui peut le stresser.
Donc ce sont ses réponses, vous l'interrogez.
Exactement.
C'est lui qui doit mesurer son stress.
C'est lui, on passe par la perception de l'individu pour le comprendre, effectivement.
Parce que vous faites un accompagnement mental au fait des joueuses. Hein. Et alors, ça se passe comment concrètement alors?
On peut avoir des actions diverses. On a déjà des entretiens individuels pour lesquels les filles peuvent venir. Elles arrivent soit avec un sujet qu'elles ont envie d'aborder, soit on repart des images de match, des scénarios d'entraînement sur lesquels on peut rebondir. Mais on a aussi, justement, pour développer cette intelligence collective, des ateliers où on regroupe l'équipe, parfois le staff n'y est pas, mais on les fait travailler ensemble sur de la communication, sur de la compétence émotionnelle, sur le partage de la connaissance du groupe, et c'est notre manière de développer justement ces compétences collectives auprès de ces jeunes filles.
Parce que vous avez parfois des joueuses très timides hein, qui arrivent au tout début, parce que le but vrai. Aussi c'est de les faire entrer à l'INSEP,
ouais, hein,
et au fil du temps finalement vous voyez les gens se transformer aussi.
Bah, de toute manière elles ont entre 15 et 18 ans et j'ai envie de dire c'est un âge, qu'on soit au Pôle France ou pas, on se transforme.
Oui, bien sûr.
Et c'est une période de croissance qui est, sur le plan psychologique, qui est très intéressante, sur le plan sociologique, la manière dont elle s'intègre dans un groupe, dont elle s'émancipe des parents, etc. C'est un accompagnement très intéressant.
Sophie.
Le but, c'est de faire baisser le stress ou de gérer le bon et le mauvais stress?
Le but, c'est de savoir faire face. Moi, je travaille pas. L'erreur d'arbitrage, elle arrivera toujours. L'erreur individuelle, malheureusement, ça peut arriver. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on développe des stratégies pour faire face et qu'on évite la plupart. Ce qui s'est sûrement passé avec le PSG, c'est ce qu'on dit aussi dans le papier avec Benoît, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle du désengagement. C'est-à-dire que quand l'athlète ne se sent plus capable de faire face, il arrête de fournir les efforts nécessaires. Et nous, notre travail, c'est de développer tout un autre panel de stratégies qui leur permettra effectivement d'éviter à tout prix de se désengager et de toujours trouver une réponse.
Chloé Leprince, est-ce que vous avez vu ce film Comme des garçons qui est sorti l'année dernière?
J'en ai entendu parler,
de Julien Allard et qui parle de la première équipe de foot féminine en France. On en écoute un extrait.
Je suis venue jouer un match alors on se dégonfle pas. Alors oui, on va peut-être perdre. Mais au moins on aura essayé. Alors faut aller jusqu'au bout. On est des cramponneuses ou quoi?
Les Italiennes vont vous humilier. Vous allez être la risée de la ville.
Vous voulez parier?
J'ai réfléchi à la tactique. Enfin, la tactique, ouais, qu'on pourrait faire pour ce match.
Je m'occupe de tout.
Je m'occupe de tout. Okay. Super. Bonne chance.
Voilà. Elles sont nombreuses, d'ailleurs, les filles à jouer au foot en France ou pas?
De plus en plus.
Ouais, oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'équipes.
En tout cas, la fédération est contente de l'augmentation de ces chiffres et on espère que la Coupe du Monde en France sera également un tremplin à la pratique féminine du football.
C'est donc le 7 juin.
Que ça commence.
Prochain. Ça va durer combien de temps?
C'est un mois.
Un mois aussi. Ouais. Voilà. Benoît Tonson.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on a parlé de ce qui se passe mal. Mais souvent, les équipes arrivent à réagir. Donc, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu les stratégies que vous avez pu mettre en lumière grâce à vos questionnaires et au travail que vous avez pu fournir avec les athlètes.
Oui, pour effectivement éviter que les équipes se désengagent, on a identifié des types de stratégies qui sont plus propices à la performance. Et nous, on travaille avec les athlètes pour les aider à développer des stratégies qui visent à résoudre le problème, à maintenir les relations dans le groupe, même en présence d'un facteur stressant, et à réguler les émotions dans le groupe. Et toutes ces trois fonctions-là, elles englobent un ensemble de stratégies, et c'est ces stratégies-là qu'on vise à développer pour performer.
Et ça, oui, c'est ça. Et ça peut aider à faire gagner concrètement ou pas alors?
Bah après, dans le cadre de mon doctorat, on essaie justement de savoir l'effet adaptatif de ces stratégies et leur effet sur la performance. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore ces résultats aujourd'hui. Mmh. Après, là pour le coup, c'est moins le chercheur qui parle, mais l'observateur de terrain. Ça peut pas faire de mal de développer ses ressources et d'avoir un panel de stratégies collectives pour faire face.
Voilà, Chloé Leprince, merci beaucoup, parce qu'on va passer à l'agenda de Sophie Bécherel dans un instant. Donc cet article est à lire dans The Conversation, Benoît Tonson. Et alors très vite, en 10 secondes, vous avez aussi un nouveau rendez-vous pour les juniors, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, c'est vraiment l'instar des petits bateaux sur votre antenne. On répond à des questions, des vraies questions d'enfants. Moi, je vais dans des écoles récupérer des questions d'enfants sur les sciences en général et on les soumet à nos scientifiques, on essaie de faire des petits articles pour les 6-12 ans.
Eh ben, génial. Donc, c'est sur The Conversation,
exactement.
Hein, ce site dont nous sommes partenaires. Merci beaucoup, Chloé Leprince. Sophie Bécherel, qu'est-ce qu'on fait ce week-end?
On peut aller au Musée de l'Homme à Paris,
où l'exposition
basée sur les campagnes de fouilles archéologiques de l'INRAP sur l'îlot de Tromelin retrace cette histoire extraordinaire. Mm-hmm. Vous la connaissez, Mathieu? 80 esclaves oubliés au milieu de l'océan Indien pendant 15 ans.
Ouais.
Il n'en restera que 8, 7 femmes et un bébé. Et donc cette exposition mêle l'histoire et l'archéologie, donc l'activité de la Compagnie des Indes, la réalité de la traite des esclaves, cela venait de Madagascar, la fortune de mer évidemment, et puis la survie dont les archéologues ont tenté de décrypter toutes les facettes par les fouilles. C'est absolument passionnant. Qu'ont-ils bu? Qu'ont-ils mangé? Comment se sont-ils abrités des ouragans? Est-ce qu'ils ont recréé une société? Donc, c'est au Musée de l'Homme jusqu'au 3 juin.
Donc, Paris.
Voilà. Le 2 avril prochain, le DVD Le Temps des Forêts, vous connaissez bien Dada pour ce documentaire de François-Xavier Drouet, oui, qui évoque la gestion de la forêt par les hommes et les femmes qui la regardent évoluer, qui la travaillent, qui la coupent, sort. Dans le Nord, figurez-vous qu'on parle aussi d'espace au Palais des Sciences et de l'Univers à Capelle-la-Grande. Une exposition conçue par la Cité de l'Espace de Toulouse est actuellement proposée. Elle vaut pour les enfants à partir de 7 ans. Donc l'espace, comment y aller, comment est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'on y fait, toutes les réponses sont là-bas, c'est jusqu'au 30 août, mais dès les vacances de printemps, là, il y a pas mal d'animations. Et puis la bulle des tout-petits, 3-6 ans, propose de son côté toute une série de spectacles toujours en lien avec la science. Ça se passe donc à la Capelle la Grande, dans le Nord.
Merci Sophie, et toutes les infos évidemment sont sur le site de la Tête au Carré. Voilà, on signale allez, tous les livres dont nous avons parlé aujourd'hui. D'abord cette collection avec le monde de livres illustrés fidèles à l'édition Hetzel de Jules Verne. Ce sont ces voyages extraordinaires, Jean Verne. On va se précipiter dans les librairies et surtout dans les kiosques pour acheter tous ces romans qui nous ont fait rêver, petits ou grands. Et puis La Guerre des Fourmis, Franck Courchamp,
apparaître.
Ce sera le 10 avril prochain aux éditions Équateur et cette web-série à regarder sur Arte. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un très bon week-end. Merci d'être venu dans le club cet après-midi.